Bonjour à toutes et à tous, bon réveil à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 3h30 en temps universel, 5h30 à Paris et Carton.
Grégoire Morelli.
La capitale soudanaise a été reprise par l'armée fin mars, mais les forces de soutien rapide conservent quelques poches de résistance et des combats ont toujours lieu. Des cadavres jonchent les rues avec le risque sanitaire que cela implique. Un reportage rare de notre envoyé spécial Gaël Lalex. Et dans ce conflit au Soudan, le rôle de la Chine est pointé du doigt. L'ambassadeur de Pékin dans le pays a été sommé de donner des explications sur l'utilisation de drones chinois par les FSR contre l'armée, ce que Pékin dément. Nous serons aussi en République démocratique du Congo où la déclaration d'intention signée par Kigali et Kinshasa en vue d'un accord de paix est perçue d'un mauvais œil par l'opposition. Précision d'ici quelques minutes. La situation humanitaire au Soudan, continue de s'aggraver. C'est notamment le cas à Khartoum. RFI vous propose cette semaine une série de reportages exceptionnels dans la capitale soudanaise, dont la plus grande partie a été reprise par l'armée fin mars. Mais les FSR, les forces de soutien rapide, conservent quelques poches de résistance dans l'ouest et le sud de la ville. Les combats continuent alors que les déplacés commencent à rentrer. De nombreux cadavres sont présents dans la capitale et leur retrait devient une question d'urgence sanitaire. Des témoignages rares a pu réaccueillir Gaël Lalex.
Le quartier d'Ombada, dans la banlieue ouest de Khartoum, est scindé en deux par la ligne de front. La partie est a récemment été récupérée par l'armée. L'odeur y est pestilentielle. Chabou Kaï, un habitant, explique pourquoi.
Les FSR ne nous autorisaient pas à enterrer nos morts. Ils devaient rester dans la rue. La nuit, parfois, on récupérait les corps et on les enterrait dans nos maisons. Il y a des maladies, mais on ne sait pas si c'est à cause des morts ou de la faim.
Comme ses voisins, Kafi Bourgane a enterré des proches dans sa maison. Il n'a pas de cour, les dépouilles reposent dans le salon.
Si les FSR nous prenaient en train d'enterrer nos morts, ils nous battaient ou nous tuaient. On n'avait pas le droit de les honorer. Les corps pourrissaient. Personne ne peut imaginer l'odeur de la mort. Ça me rend triste et mon Dieu le sait.
Ce sont les volontaires du Croissant Rouge en collaboration avec l'armée qui collectent les dépouilles dans la capitale. La situation est urgente, selon Osama Mustafa Souleyman, son directeur.
La saison des pluies démarre dans 2 mois. Or, les déplacés rentrent. À Khartoum, il n'y a pas d'eau courante. Les gens vont la chercher dans le Nil ou dans des puits. Si on ne récupère pas très vite les corps, il y aura des épidémies.
Des milliers de dépouilles ont déjà été récupérées. 3 cimetières ont été créés dans la banlieue de Khartoum. Gaël Lalex de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Gaël Lalex qui toute la semaine vous propose une série de reportages exclusifs tournés à Khartoum. C'est à retrouver sur le site de RFI.fr et notre application Pure Radio. Toujours concernant le Soudan, l'ambassadeur chinois en poste dans le pays a récemment été appelé au ministère des Affaires étrangères et sommé de donner des explications sur l'utilisation de drones de fabrication chinoise par les paramilitaires des forces de soutien rapide dans la guerre. La Chine n'a rien à voir avec la présence de ces drones et n'a aucun lien avec les FSR, c'est ce qu'a indiqué le diplomate chinois, affirmant que son pays soutient la stabilité et l'unité du Soudan. Il n'empêche que ces drones stratégiques, qui ont dernièrement fait leur entrée dans les combats, sont en train de poser un grand défi à l'armée, malgré les avancées qu'elle réalise sur le terrain depuis plusieurs mois, Ouda Ibrahim.
Ces drones FH-95 mènent des frappes d'une grande précision et effectuent des missions de renseignement. Et surtout, ils échappent à la défense antiaérienne, ce qui explique la réussite des récentes attaques. Selon plusieurs spécialistes, ces drones ont été vendus par la Chine aux Émirats Arabes Unis, un pays dont l'ONU pointe l'implication dans le conflit aux côtés des FSR. D'après des images satellites révélées par l'université américaine de Yale, ces drones sont lancés depuis l'aéroport port d'Amjaras au Tchad et de celui de Niala au Soudan. Ils attaquent El Fasher, les bases et les positions militaires, mais aussi et surtout les infrastructures loin du front au nord du pays. Ainsi, la semaine dernière, la raffinerie de pétrole Jili à Khartoum Bahri a été visée, tout comme les centrales électriques de Atbara, Dongola, Marawi et Adamer. Ces drones ont également ciblé la plus grande base aérienne de l'armée à Wadi Sayed Napré de Khartoum. Le conseiller militaire de FSR a affirmé la semaine dernière que la guerre est entrée dans une nouvelle phase. L'armée assure qu'elle va mettre fin à ses attaques.
Ouda Ibrahim, au Soudan du Sud cette fois. Nouvel appel hier lundi à la libération du vice-président Riek Machar et des autres membres de l'opposition placés en détention par le président Salva Kiir le mois dernier. Cet appel émane de la commission qui supervise la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. Une commission formée par le bloc régional de la Corne de l'Afrique, l'IGAD, une sorte d'arbitre du processus de paix. La commission a publié hier son rapport trimestriel qui couvre les mois de janvier, février et mars, une période pendant laquelle la situation politique et sécuritaire s'est gravement détériorée au Soudan du Sud. Si elle dresse un constat alarmant, la commission rappelle que cet accord de paix signé en 2018 reste la pierre angulaire de la future stabilité du pays. Depuis Djouba, la correspondance de Florence Mietto.
Des scènes jamais vues depuis la signature de l'accord il y a 6 ans. C'est ainsi que la commission qui supervise le processus de paix décrit les événements des dernières semaines. Si des violations du cessez-le-feu sont imputées aux deux parties, c'est en revanche le camp de Salva Kiir qui est pointé du doigt concernant les violations dites politiques. Détention de Riek Machar, invitation de l'armée ougandaise sans consultation des autres signataires ou encore remaniement ministériel jugé unilatéraux. Sur le terrain, les combats continuent entre forces de l'opposition et forces gouvernementales, mais les observateurs de l'accord de paix veulent croire que tout n'est pas perdu. Bien que la confiance entre les parties ait été sérieusement ébranlée, écrivent-ils, il reste encore une marge de manœuvre pour un réengagement et un dialogue. Ils demandent donc la libération immédiate de Riek Machar et de tous les autres officiels d'opposition détenus, à moins que des preuves crédibles ne justifient des poursuites judiciaires. Enfin, ils appellent à la cessation immédiate des hostilités sur tous les fronts et note avec inquiétude l'arrêt de la préparation des élections censées se tenir dans moins de 20 mois. Florence Mietto, Djouba, RFI.
RFI à Antananarive, 96 FM.
Jeudi dernier avait lieu le 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien, un événement de grande ampleur organisé par et à Madagascar, durant lequel les enjeux de la souveraineté alimentaire régionale ont été débattus. Les chefs d'État des 5 pays membres étaient au grand complet. Alors si certains y ont vu de belles avancées, d'autres restent encore sceptiques, Sarah Tetto.
Un sommet historique, c'est en ces termes que la ministre des Affaires étrangères malgache, Rafa Rafavitaf Kerasat, a qualifié le 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien lors de son bilan face à la presse.
Nous avons su replacer au cœur des préoccupations des États membres de la COI la question de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire dans la région. Madagascar se positionne comme un pays qui veut apporter des solutions.
Une fois encore, la Grande Île a affiché sa ferme volonté de redevenir le grenier de l'océan Indien. Dans cette optique, les 5 États se sont donc engagés à investir massivement dans la transformation des systèmes agricoles et dans la nutrition. Pas suffisant, estime Mathieu Joyeux, responsable de la nutrition à l'UNICEF Madagascar.
Clairement, au vu de l'urgence nutritionnelle dans le Grand Sud actuellement, on ne peut pas en rester là au stade des résolutions. Et donc, il nous faut vraiment maintenant des actions très concrètes pour répondre justement aux enjeux d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans Madagascar. Et ça doit aller au-delà des ambitions certes louables d'augmentation de la production rizicole, par exemple. Et donc, pas uniquement tout miser sur la production alimentaire pour de l'export régional ou même international. Pour rappel, on a au sein de la COI une structure en charge de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Elle a été créée il y a 10 ans. Il faut maintenant qu'on passe vraiment à l'action avec l'appui de cette structure.
Dans le grand sud de l'île, les voyants sont effectivement dans le rouge. Le nombre d'enfants atteints de la malnutrition aiguë sévère a quasiment doublé ce mois-ci par rapport à avril 2024. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Sarah Tetto, que vous retrouverez d'ici quelques minutes dans notre reportage long format dans la suite de RFI Matin. Je vous le disais en RDC, la déclaration d'intention signée vendredi dernier par Kigali et Kinshasa en vue d'un accord de paix est perçue d'un mauvais œil par l'opposition. Cette déclaration sous l'égide des États-Unis doit aboutir à un accord de paix qui vise à promouvoir la paix donc et le développement économique dans la région des Grands Lacs. L'opposition craint que cet accord ne soit motivé que par des intérêts économiques, Pierre Firsion.
Pour survivre politiquement, Félix Tshisekedi a accepté d'hypothéquer les minerais du Congo, a accusé Prince Epengue, le porte-parole de la coalition d'opposition Lamuka. Sa crainte qu'avec cet accord, les sociétés américaines viennent s'installer au Rwanda, qu'elles créent des emplois sur place et que la RDC ne devienne, je cite, qu'un trou d'où l'on extrait les matières premières. Le PPRD voit lui dans cet accord un acte de pillage appuyé par les États-Unis. Le parti de Joseph Kabila suspectant le président congolais de vouloir céder les mines du pays à son voisin rwandais. Pointant l'opacité des négociations de Doha et de Washington, les opposants Seth Kikuni et Claude Loubaya dénoncent de leur côté la priorité donnée à des considérations économiques. Pour tenter de trouver une issue à la crise, d'autres formations comme le Mouvement radical pour le changement de Frank Diongo appellent à l'ouverture d'un véritable dialogue régional incluant l'ensemble des pays voisins, y compris le Rwanda.
La République démocratique du Congo, où le ministre des Affaires étrangères belge était en visite, Maxime Prévost, a rencontré hier à Kinshasa le président Félix Tshisekedi. Il a réaffirmé le soutien de la Belgique à la RDC face aux violences à l'est du pays. Un mot aussi de la coupure de courant massive survenue hier en fin de matinée dans l'ensemble de la péninsule ibérique. Elle a eu cette coupure des répercussions jusqu'au Maroc. En effet, les services internet d'Orange ainsi que le système d'enregistrement dans les aéroports du royaume chérifien ont été perturbés. Avant un retour à la normale dans la journée d'hier. En Espagne et au Portugal, la situation revient aussi progressivement à la normale. On y reviendra plus longuement dans le journal de 6h avec Jeanne Bartoli. Parce que oui, pour le moment, c'est l'heure de parler sport avec du cyclisme. La 20e édition du Tour du Bénin s'était lancée hier depuis le nord du pays, de Niki vers Parakou. Une première étape remportée en solitaire par l'un des favoris, le sud-africain Reinhard Jans van Rensburg. Mais cette étape a déjà laissé des traces chez les coureurs, tant la chaleur est intense sur les routes béninoises, Olivier Pron.
Cameroun, Burkina Faso, ravitaillement demandé. Côte d'Ivoire, ravitaillement également demandé à l'arrière du peloton.
Vraiment, il fait très chaud, il fait très chaud. On fait tous les efforts pour que ça passe, mais ça ne veut pas. C'est très dur.
L'Ivoirien Alexis Kouakou Luku, épuisé à l'arrivée de cette première étape disputée sous 38 degrés. Une chaleur intense qu'il faut savoir gérer, explique Clovis Kamzonga Bosolo, le vétéran et très malin Camerounais, quatrième à Parakou.
Il faut savoir se ravitailler parce que je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas pu se ravitailler. Ils ont pris un coup à la fin. Ça sera comme ça toute la semaine et nous autres, on va profiter parce qu'il y a les gens qui ne sont pas habitués avec cette chaleur. Nous, on est déjà habitués. D'ici la fin, la chaleur aussi peut jouer sa partition pour que nous autres, on en profite.
En profiter par rapport notamment aux Européens. Le Français Victor Lebon croit dur comme fer que son corps va s'habituer.
Par rapport aux Africains qui raffolent de la chaleur, dès qu'on fait un effort, on met au moins 2 minutes à récupérer le second souffle alors qu'eux, on a l'impression qu'ils ont 3 poumons. Quoi. Après, je pense que le corps, il s'habitue. Au bout d'un ou deux jours, ça devrait aller mieux. Et puis, cette année, on a la journée où il y a le chrono par équipe. Je me dis que ça va nous permettre de récupérer un peu à mi-tour.
Et en attendant cette respiration par équipe mercredi, le peloton va encore transpirer ce mardi entre Parakou et Savé au programme 156 km sous le canyon. Olivier Pron, à l'ombre, à Parakou, RFI.
Rafraîchissement demandé à l'arrière du peloton.
Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais restez avec nous sur RFI. L'information continue.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre donc. Durant les 15 prochaines minutes sur la radio du monde, on parlera des algues et de leur culture. Car à Madagascar, un projet vise à développer une souche d'algues 100% malgache, avec à la clé, pourquoi pas, des débouchés dans l'agro-industrie ou encore la cosmétique. Et puis, au Sénégal, c'est une crise qui dure dans le secteur du BTP. Depuis l'annonce des nouvelles autorités de mettre à l'arrêt des chantiers de construction, des milliers d'employés du secteur se retrouvent sans activité. Et puis, on essaiera de voir la vie en vert, puisqu'on parlera de pistache, le fruit sec qui se consomme tel quel, ou dans des tablettes de chocolat qui se vendent à prix d'or, et son succès va grandissant. C'est donc une pratique âgée de plusieurs siècles, l'algoculture, un terme qui désigne la culture en masse des algues dans un but industriel et ou commercial. À Madagascar, une recherche unique en son genre est menée depuis 2 ans pour donner un nouvel élan à la culture de ces algues. Il s'agit d'un projet financé par Global Seaweed Coalition et qui vise à développer une souche d'algues 100% malgache qui puisse être produite dans les fermes algocoles du pays et supplanter ainsi une souche importée de Tanzanie cultivée depuis une décennie mais dont le patrimoine génétique s'est considérablement affaibli au fil des ans. Le Capaficus, c'est le nom de cette algue, est très apprécié pour son carrageenan, un biopolymère utilisé dans l'agro-industrie, la pharmaceutique et la cosmétique. Notre correspondante, Sarah Teto, a pu accéder au laboratoire de recherche situé à Tuléar, dans le grand sud de Madagascar. Reportage.
Est-ce qu'il y a déjà des bactéries sur les algues ?
Oui, il y en a déjà.
Où ça ? Je peux voir ?
Dans leur écloserie de Tuléar, Thomas et Borrello inspectent la trentaine d'aquariums dans lesquels se développent des algues aux différences de patrimoine génétique saisissantes. Et c'est le bac numéro 22 qui retient soudain l'attention des deux hommes. L'algue qui s'y développe montre des critères morphologiques intéressants.
Borrello, ces boutures-là, ce sont les bébés des algues qui ont été récoltées à Tiandam en 2023. Elles poussent hyper bien, non ?
Oui, c'est un succès. Elles semblent en bonne santé et elles sont vraiment grosses.
Je trouve qu'elles ont aussi une texture très lisse.
Ces bébés algues, dont parle Thomas Picard, le directeur adjoint d'Ocean Farmers, pionnier de l'algoculture dans l'île, ont déjà un an de vie dans leur aquarium.
Aujourd'hui, on constate que cette algue-là, elle présente tous les critères que l'on recherche, c'est-à-dire qu'elle a un très bon taux de croissance, elle est saine, elle a beaucoup de mucus, elle développe énormément de branches, donc c'est un enfant avec lequel on pense qu'il y a vraiment un potentiel pour pouvoir en faire une variété qui sera intéressante pour la mise en culture avec les fermiers.
L'algue est déjà testée en pleine mer. Les chercheurs ont bon espoir que d'ici fin 2025, ils auront suffisamment de recul pour pouvoir commencer à travailler avec les souches sélectionnées. Et si la science s'intéresse à cet organisme vivant, c'est parce qu'au fil des ans, la reproduction végétative de l'algue, sorte de clonage à l'infini, a entraîné l'épuisement du patrimoine génétique de sa souche, baissant nettement sa productivité.
Donc une des solutions aujourd'hui sur laquelle on a réfléchi, c'est d'aller chercher des souches locales sauvages et également de réintroduire de la diversité génétique au sein de notre population qui va permettre de renforcer la résilience de l'algue de manière générale face aux maladies, face aux conditions de culture, face au changement climatique. Et donc très naturellement, comme dans n'importe quelle population animale ou végétale, plus vous avez de la diversité génétique, plus vous allez avoir la chance d'avoir des meilleurs résultats et de la résilience. Donc on a besoin de reproduire énormément d'individus et de tester beaucoup d'individus avant de trouver la perle rare qui va être l'individu performant. Donc on pense que ça prendra environ encore 2-3 ans.
Un projet scientifique dont les résultats seront partagés à tous les acteurs de la filière pour renforcer la production d'algues à l'échelle nationale. Objectif, peser sur le marché mondial de l'algue et multiplier par 10 la production du végétal d'ici 2030. Sarah Tetto, de retour de Tuléar, RFI.
Sachez que la semaine prochaine, du 5 au 9 mai, se tient à Victoria, au Canada, l'International Seaweed Symposium, le rendez-vous mondial des acteurs de l'algue, qu'ils soient chercheurs, industriels ou producteurs, un événement auquel Madagascar participera.
RFI, toute l'actualité, Grégoire Morelli.
Et à la une de l'actualité internationale de ce mardi 29 avril, les premières tendances au Canada après les élections législatives, les projections des médias canadiens donnent le premier ministre sortant McCarney vainqueur, mais son parti libéral n'est pas sûr de pouvoir compter sur une majorité au Parlement. Les derniers bureaux de vote ont fermé il y a peu. On y revient dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Marine de la Moissonnière. L'électricité est rétablie à presque 90% en Espagne et au Portugal. La péninsule ibérique a été frappée hier par une panne géante. Le gouvernement espagnol a déclaré l'état d'urgence en Andalousie, en Extrémadure et dans la capitale Madrid. Le Premier ministre dit n'écarter aucune hypothèse sur les raisons de cette panne. Et lui s'est finalement rendu à la police italienne après 2 jours et demi de cavale. Le Français de 21 ans suspecté du meurtre vendredi dans une mosquée du sud de la France. Le jeune malien Aboubakar Sissé a été lardé de plusieurs dizaines de coups de couteau ce jour-ci. Les droits humains n'ont jamais été autant bafoués partout dans le monde qu'en 2024, c'est ce que révèle le rapport annuel d'Amnesty International. Le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct commis par Israël dans la bande de Gaza, dénonce en préface le secrétaire général d'Amnesty International, Alel Agnès Calamar. En mai 2024, le gouvernement sénégalais, tout juste installé, suspendait les chantiers de construction dans le pays, le temps de faire des audits pour assainir le secteur. La mesure devait durer 2 mois, mais les chantiers n'ont pas repris. Depuis, ce secteur crucial pour le pays, plus de 4% du PIB et 200 000 emplois directs, a plongé dans la crise. Des dizaines de milliers d'emplois sont perdus et la population s'impatiente. Reportage de Juliette Dubois.
Chaque matin, au rond-point de Cœur Massar, en banlieue de Dakar, des centaines d'ouvriers attendent, outils à la main, que des camions viennent les chercher pour aller travailler. Mais depuis un an et la suspension des chantiers par les autorités, le travail se fait rare. Ida Faye est maçon.
Tu viens à 5h du matin, tu vas rester là jusqu'à 10h et puis rentrer. Le lendemain, tu reviens encore. Tu avais espoir de gagner quelque chose, mais tu rentres encore bredouille. Ça fait des mois que ça dure.
Beaucoup de ces jeunes ont voté pour le nouveau président Bassirou Diomaye Faye avec l'espoir du changement, mais leurs conditions de vie se sont détériorées. Rane Dieng.
Avant, avec l'ancien régime, on pouvait gagner 10 000 ou 11 000 francs CFA par jour. Mais aujourd'hui, on a du mal à gagner ne serait-ce que 5 000. Ça fait un an qu'ils sont là et ils n'ont rien fait pour le pays. Il faut qu'ils arrêtent d'auditer, de suspendre tout. Il faut qu'ils travaillent.
Insa Colli, ferrailleur et père de famille, est en colère et n'arrive plus à penser à son avenir.
Si tu vois, tu trouves 300 000 francs aujourd'hui. Je prends la pirogue pour rentrer en Espagne. Tu fais l'Espagne 3 mois, tu achètes un terrain ici à Dakar. Mais tu travailles ici pendant 20 ans, tu ne peux même pas acheter un terrain. Nos États doivent penser à cette jeunesse-là. Sinon, nous tous, on va mourir dans la mer.
15 000 emplois ont été perdus dans le secteur formel suite à la suspension des chantiers, selon les syndicats. Certains ouvriers qui avaient des contrats sont au chômage technique. Dans le secteur informel, c'est impossible à chiffrer, mais bien plus élevé selon les représentants de la profession. Oumar Gueye, du syndicat national de la construction et du bâtiment, s'impatiente.
Au début, on disait qu'il y avait des audits à faire. Il y avait une situation du secteur qu'on voulait vraiment avoir une maîtrise. Mais j'avoue que là, on ne comprend plus.
D'autant que l'État sénégalais a accumulé de nombreux impayés auprès des entreprises de construction pour 300 milliards de francs CFA, soit plus de 450 millions d'euros. Oumar Gueye regrette l'absence de mesures d'accompagnement de l'État.
Dans une république normale, même s'il y a des décisions qui doivent être prises, pour moi, l'idéal serait au moins qu'on puisse nous appeler autour d'une table. Si, par exemple, on nous avait payé à l'avance sur la dette intérieure, on pouvait au moins préparer ces situations-là. Mais c'est du jour au lendemain qu'on est confronté à ces situations d'arrêt des travaux. On n'a plus de nouveaux marchés, on n'est pas payé. Les chantiers qui étaient gagnés ne sont pas exécutés. Vous voyez, donc ça fait mal.
Au dernier trimestre 2024, le chiffre d'affaires du secteur de la construction sénégalais a reculé de près de 10% par rapport à la même période en 2023. Sollicitées, les autorités n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et vous pouvez réécouter ce reportage sur notre site rfi.fr. On la consomme à l'apéritif, dans les pâtisseries, les bars énergétiques et les plats cuisinés. On parle ce matin sur RFI de la pistache, qui a de plus en plus la cote à travers le monde. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Les prix de la pistache ont augmenté de plus de 25% en un an. Et comme souvent, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande qui explique cette hausse.
Effectivement, on a pour commencer une offre limitée chez le premier fournisseur mondial, les États-Unis. Il faut savoir que les pistachiers produisent plus ou moins selon les années. Et 2024, c'était précisément une année à plus faible rendement pour les arbres américains qui ont vu leur production baisser d'un quart. En face, l'appétit pour le petit fruit sec à coque ne faiblit pas. Depuis plusieurs années, on grignote plus d'encas à base de pistache entre les repas, mais aussi des confiseries et des pâtes à tartiner. L'engouement pour le chocolat Dubaï, une tablette fourrée de crème de pistache qui a enflammé TikTok et l'illustration même de cette passion grandissante pour le fruit sec à la couleur verte si caractéristique. La consommation augmente en particulier en Asie, notamment en Inde, en Chine et en Thaïlande grâce à la hausse du pouvoir d'achat de la classe moyenne.
Et le constat est le même au Moyen-Orient ?
Oui, dans cette région du monde, la pistache est depuis longtemps utilisée par l'industrie et la pâtisserie traditionnelle, mais la demande continue d'augmenter. C'est le cas en Turquie et aux Émirats Arabes Unis, pour ne citer que ces deux marchés. La demande mondiale pourrait grimper cette année de 6% selon les chiffres du ministère américain de l'Agriculture, une demande qui est toujours fortement dépendante de l'appétit de la Chine, le premier acheteur mondial.
Et l'augmentation des prix, ce sera peut-être l'occasion pour la Turquie de renforcer sa place à l'international ?
Et oui, depuis 3-4 ans déjà, la récolte de pistaches ne cesse de grandir en Turquie. Le pays s'impose peu à peu comme le deuxième producteur mondial, une place qui était occupée par l'Iran jusque-là. La spécificité, c'est que la production turque a toujours été essentiellement consacrée au marché local. Avec la hausse des prix, les producteurs turcs pourraient être tentés d'exporter plus. On pense évidemment au marché chinois. Mais ce scénario dépendra de l'évolution des prix, qui est elle-même très lié au maintien ou non des tarifs douaniers de rétorsion imposés par Pékin sur les produits américains. La pistache pourrait voir son prix augmenter à court terme en raison des taxes, mais on pourrait aussi assister à une augmentation des stocks aux États-Unis, ce qui serait à plus long terme là un facteur de baisse des prix.
Merci à vous Marie-Pierre Olfan pour ces informations vertes et croquantes. C'est l'heure de retrouver nos confrères d'outre-mer, la première, direction l'océan Indien, à La Réunion précisément, où l'actualité est notamment marquée par le fait qu'une partie des habitants reste privée d'internet après le passage du cyclone Garance. La Réunion toujours, où la polémique enfle autour du vaccin contre le chikungunya. Tout ça, on en parle avec vous, Edwige Saint-Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Les professionnels de santé de La Réunion demandent la suspension de la vaccination contre le chikungunya, maladie transmise par les moustiques. Une réclamation qui intervient suite à l'annonce des autorités sanitaires de retirer les personnes de 65 ans et plus de la campagne de vaccination après trois événements indésirables graves, dont un décès. En attendant d'avoir plus de précisions sur ce drame, les professionnels de l'île, eux, prennent d'ores et déjà leurs précautions. Priscilla Etève, Réunion la première.
On n'a pas plus de ça. Donc okay. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
Dans le réfrigérateur de vaccins, il ne reste plus que 5 doses du Ixchiq sur les 10 que reçoit quotidiennement le docteur Claude Marodon à sa pharmacie de la Trinité Saint-Denis. Mais depuis ce lundi...
À titre personnel, je mets la vaccination en pause dans la pharmacie.
Le président de l'Ordre des pharmaciens Réunion Mayotte n'administre plus aucune injection.
Le médicament est fait pour soigner. Donc s'il y a un effet secondaire grave, en l'occurrence un décès, il est bon de réévaluer avec des experts. Nous ne sommes pas des experts. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les experts de l'HAS se penchent sur les causes réelles de ce décès et donc vont ensuite analyser la situation.
Si jusqu'à la semaine dernière, le docteur Alain Domerc, médecin généraliste à Sainte-Marie, reconnaît avoir incité les Gramounes fragiles et exposés à se faire vacciner contre le chikungunya. Désormais, il pèse davantage le pour et le contre avant de délivrer une ordonnance.
Aujourd'hui, vous venez me voir pour un vaccin. Je discute avec vous vos motivations, quelles sont vos pathologies, pourquoi vous voulez vous vacciner. Je vous informe des risques encourus et ensemble, on fait une balance bénéfice-risque individuel et ensemble on prend une décision.
Les volontaires à la vaccination n'étaient déjà pas nombreux depuis le lancement de la campagne au début du mois. Ils pourraient l'être encore moins après ces risques reconnus.
On reste à l'île de La Réunion où les conséquences du cyclone Garance se font toujours sentir. C'est le cas à Saint-Benoît où de nombreux habitants restent privés d'internet et de téléphone. D'où la colère du maire qui estime que rien n'a été fait par les deux opérateurs qui se partagent les installations dans l'Est. Florent Marot, Réunion la première.
Une chose est sûre, il va falloir attendre. Attendre parce qu'il n'y a pas que de la réparation, il y a aussi de la reconstruction. André Martin, directeur d'Orange Réunion.
Garance, c'est une casse exceptionnelle sur l'Est, avec plus de 2000 poteaux qui ont été cassés ou endommagés. C'est plus d'un an et demi de travail quotidien, normalement, qu'il faut faire.
Des explications qui ne satisfont pas les habitants de l'Est, et encore moins Patrice Sély, le maire de Saint-Benoît, a saisi la justice pour contraindre les opérateurs.
Les aspects techniques qui sont développés par Monsieur Martin, c'est pas mon problème. Le problème, c'est comment on fait pour que les bénédictins soient mis sur le même pied d'égalité que les autres réunionnais. Et donc, il faut absolument que Orange, SFR, ZEOP et EDF se coordonnent pour apporter des solutions.
Une bonne nouvelle quand même, réunit son opérateur commercial ZEOP et leur directeur Emmanuel André viennent de rendre public leur feuille de route ville par ville. En attendant, les opérateurs ont suspendu la facturation ou mis en place des gestes commerciaux pour les clients touchés par les coupures.
Direction Mayotte à présent, où les commerçants ne sont pas contents. Hier matin, plusieurs d'entre eux se sont réunis devant le parvis du comité du tourisme. Ils dénoncent des contrôles douaniers qu'ils estiment inappropriés. Ils alertent sur une pratique qui menace, selon eux, directement la survie de leur petit commerce, l'abaissement du seuil à partir duquel ils doivent justifier la provenance de leur argent. Jean Barège, représentant des commerçants de Mayotte.
Avant, si tu amènes plus de 10 000 euros, tu déclares. Plus de 50 000 euros, il faut avoir l'indicatif où tu as trouvé l'argent. Et là, moi, je vois les choses qui est là maintenant qui vont tuer tous les petits commerçants. Parce qu'ils demandent 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Il faut trouver un endroit où tu as trouvé l'argent. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui, on les demande beaucoup de choses. Là, ils vont vraiment tuer l'économie de Mayotte. Et là, je vois, avec le Chinois, avec tout, bon, déjà, le mois de Ramadan, on n'a pas travaillé déjà. Il y a combien de millions de personnes qui vont être au chômage là.
Des propos recueillis par Mayotte la première. Excellente journée.
Excellente journée à vous aussi, Edwige Saint-Thomas. Avant de vous laisser, un mot de la Nouvelle-Calédonie, où Manuel Valls doit se rendre aujourd'hui. Le ministre des Outre-mer revient à Nouméa pour mettre sur la table un projet d'accord politique sur l'avenir du territoire. Voilà, cette demi-heure d'information touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi à la réalisation ce matin. C'était Thierry Le Saint, à la rédaction en chef Vincent Dublange. Le prochain journal, ce sera d'ici une minute. Maintenant, ce sera avec Jeanne Bartoli. On reviendra évidemment sur ces élections législatives au Canada qui donne gagnant le premier ministre actuel Marc Carney, et on évoquera évidemment ce retour à la normale en Espagne et au Portugal après les coupures d'électricité. Bonne suite des programmes.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, les opposants Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont pour l'instant inéligibles. À 6 mois de la présidentielle, que vous inspire le climat préélectoral? Comment ces trois figures politiques vont-elles réagir? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.